Et à 7h12, c'est désormais le vendredi, la célèbre séquence Pixel, avec ce thème aujourd'hui, le bien-être au travail. Ah, le bien-être au travail existe-t-il encore, Renaud ?
Eh oui, syndicats et patrons ont de nouveau rendez-vous aujourd'hui pour des négociations sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle. Des négociations qui s'éternisent. En attendant un accord, Pixel s'est penché sur le bien-être au travail, en effet. Et comme chaque vendredi, vous allez découvrir ce reportage sur franceculture.fr, dont voici un aperçu. Éric Chavreau.
Ambiance comme à la maison, au cœur de Paris, dans les locaux d'un site de location chez l'habitant. Ici, cet investissement minimal pour rentabilité maximale avec du mobilier chiné par les employés. Visite guidée sur notre page. Une idée récompensée qui a aussi séduit d'autres sociétés, explique Nicolas Ferrari, directeur des opérations France de Airbnb.
Quand on a gagné l'an dernier le prix de meilleur espace de travail décerné par entreprise et convivialité, il y avait plusieurs responsables RH de grandes entreprises qui étaient présents. Et honnêtement, dans les discussions qu'on avait avec eux, ils nous disaient que oui, c'était des réflexions qu'ils avaient et que c'était une direction qu'ils voulaient prendre. Alors, c'est pas forcément évident de décorer un grand siège d'un grand building à la Défense comme on l'a fait ici sur un petit bureau dans le centre de Paris. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'ils ont en tête et qu'ils ont envie de développer.
Des directions des ressources humaines qui se font désormais de plus en plus bienveillantes, entre guillemets, avec des services de conciergerie, de coach ou de petits soins à disposition de leurs salariés. Le groupe SGS s'est même allé en Ile-de-France jusqu'à charger une de ses DRH de la convivialité, avec des résultats surprenants à retrouver sur notre site. Mais la sociologue du travail Danielle Linard voit aussi dans ce phénomène une intrusion grandissante du management dans la vie personnelle et membre de l'Observatoire du stress de France Télécom, elle doute des changements réalisés.
Ce qu'on voit à l'heure actuelle poindre, de façon très intéressante, c'est ce qu'on appelle maintenant les RH bienveillantes, celles qui prennent en main les problèmes des salariés. Il y a cette idée de, on demande beaucoup aux salariés, on leur fixe des objectifs très ambitieux, on les met dans des conditions précaires, difficiles, et déstabilisantes, donc à nous de les réconforter, à nous de les prendre en charge psychologiquement et matériellement. Et on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle orientation qui se met en place, qui consiste à dire, puisque nous voulons que les salariés puissent se donner dans leur travail et dans des conditions extrêmement difficiles, il faut qu'ils arrivent l'esprit libre, qu'ils soient pas aussi décontenancés ou mis en difficulté par leurs problèmes domestiques, leurs problèmes familiaux. Donc, à nous de prendre en charge toute cette partie-là pour leur faciliter la vie. Donc, il y a les conciergeries, où on peut se faire passer ses vêtements, envoyer des bouquets à monsieur ou à madame si on arrive trop tard du boulot, où on peut réserver des places de théâtre, enfin bon, des conciergeries, il y a des crèches aussi, on peut se faire masser sur le lieu de travail, il y a des numéros verts, SOS psy si on a des problèmes, il y a les coachs qui sont là pour vous aider à vous y retrouver, à vous donner des repères, à vous donner des conseils, il y a même des conseils nutritionnistes pour vous aider à maigrir, garder la forme, on essaye de vous aider à vous arrêter de fumer, c'est-à-dire qu'il y a une prise en charge de la personne, mais pour qu'elle soit plus vaillante et plus résistante, je dirais, au coup de boutoir du management qui, effectivement, essaye d'asseoir son emprise sur les salariés et de gagner une sorte de bataille identitaire, une métamorphose identitaire des salariés qui passe par une période difficile, et nous sommes au cœur de cette période difficile, où ils sont totalement déstabilisés, endommagés, on pourrait dire, dans leur manière de gérer leur travail et leur relation au travail. Et ils sont aussi endommagés dans l'image d'eux-mêmes. Parce que si on est en situation de quasi-incompétence, vous imaginez la peur qu'on peut avoir de faire une faute professionnelle, mais aussi la façon dont l'image de soi et dévalorisé. Et il y a une souffrance personnelle qui provient du fait qu'on ne peut plus se considérer comme un bon professionnel, quelqu'un qui fait du bon boulot, qui fait un travail de qualité utile, etc. Mais il y a donc une sorte de dévalorisation de soi qui est à l'origine de beaucoup de décompensations et probablement aussi de suicides.
On prend en charge donc de plus en plus beaucoup le personnel à des visées professionnelles.
Exactement. C'est en gros une intrusion dans la vie privée des individus de manière à ce qu'ils puissent être totalement efficaces dans leur travail. Mais alors, je tiens absolument à faire le parallèle avec ce que faisait Henry Ford dans les années 30 lorsqu'il a introduit ses chaînes de montage, les chaînes de fabrication automatique dans les usines de fabrication de voitures à Détroit. Il avait, pour pouvoir attirer les ouvriers sur ses chaînes de montage, élevé le salaire. Et c'était le fameux $5 Day. Mais il avait dit, je ne le donnerai qu'en fonction des visites que mes inspecteurs du travail feront au domicile privé des ouvriers et pour voir s'ils vivent bien correctement dans des conditions qui me donnent l'assurance qu'ils préservent leur capacité physique de manière à être efficaces sur les chaînes de montage qui sont très exigeantes. Et donc, ces inspecteurs allaient voir au domicile privé les ouvriers, d'abord s'ils étaient mariés, s'il y avait quelqu'un qui s'occupait d'eux, qui leur faisait bien à manger, qui s'occupait bien de l'intérieur, qui aérait bien. Et ils proposaient même des programmes nutritionnistes déjà à l'époque. Et puis, ils s'assuraient aussi de la moralité. Il fallait pas qu'il aille trop souvent boire, etc. Donc, il y avait une volonté aussi de réguler la vie privée, la vie domestique et familiale des ouvriers dans la tête de Ford, de manière à s'assurer à ce que quand ils arrivent sur les chaînes de montage, ils soient en pleine possession de leurs moyens physiques pour être efficaces et rentables. Donc on retrouve véritablement une conception qui a toujours existé, c'est-à-dire qu'une mise au travail très exigeante et nouvelle demande une prise en charge de la vie privée des salariés. Je crois qu'il faudrait que le management réalise que le point de départ de la gestion d'un salarié, ça ne devrait pas être la défiance, mais la confiance. Parce que si nous avons cette spécificité française qui est que les gens mettent plus leur honneur dans leur travail, qu'ils sont engagés, pourquoi ne pas partir de là, de cet engagement subjectif dans le travail, de cette capacité d'implication et cette volonté de se retrouver, de se reconnaître dans le travail, pour mettre en place des formes d'organisation qui permettent à cette intelligence et cette volonté de bien faire de se déployer. Je crois qu'il faudrait une inversion du rapport managérial aux salariés pour qu'on sorte de ces situations mortifères comme l'a été celle de France Télécom. Il faudrait miser sur les salariés. Or, tout le discours qu'on entend en managérial, c'est « nous devons faire en sorte que les salariés nous fassent confiance ». C'est cet aspect-là qui est toujours mis en avant, y compris par le management tout à fait récent de France Télécom, cette idée de « les salariés doivent nous faire confiance et nous devons développer tous les moyens pour aboutir à cette situation ». Mais c'est pas faisons confiance aux salariés et redéfinissons ensemble les modalités d'organisation du travail et de gestion des salariés.